Bonjour, c'est Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma. En effet, ce mercredi 6 octobre sort Meteors, le deuxième long métrage d'Hubert Charuel, natif de Haute-Marne. D'ailleurs, Meteors a été tourné à Saint-Dizier et est soutenu par la région Grand Est. Meteors est un joli film très touchant qui raconte l'histoire d'une amitié tellement forte que c'en est presque une histoire d'amour entre trois jeunes adultes qui se connaissent depuis l'adolescence. Et c'est un film qui mélange un peu les genres puisqu'on y retrouve des situations comiques, mais aussi du drame, du thriller, ça vire même parfois au documentaire social, voire à la science-fiction pour certaines ambiances, mais on vous laisse la surprise. Quant à son synopsis, comme toutes ses précédentes réalisations, cela tourne autour de la fameuse diagonale du vide. Trois amis inséparables, Tony est devenu le roi du BTP, Mika et Dan, les rois de rien du tout. Ils ont beaucoup de rêves, mais pas beaucoup de chance. Après un nouveau plan raté, Mika et Dan doivent se sauver d'ici, et même se sauver tout court. Ils se retrouvent donc à bosser pour Tony dans une poubelle nucléaire. Est-ce le début d'une nouvelle vie ou la fin de tout? Pour rappel, Hubert Charuel, né en 1985, c'est le réalisateur de Petit Paysan. Ce film sorti en 2017 qui avait connu un très joli succès, à la fois public et critique, qui avait d'ailleurs été sélectionné à la semaine de la critique à Cannes, et surtout avait remporté en 2018 trois Césars, dont celui de la première œuvre. Hubert Charuel avait commencé en 2011 avec un premier court-métrage, La Diagonale du Vide, justement, et depuis Petit Paysan, il n'a sorti en fait qu'un documentaire, Les Vaches n'auront plus de nom. Meteors est donc son deuxième long-métrage, qui a été présenté au Festival de Cannes 2025 dans la section Un certain regard. À l'occasion d'une avant-première à Metz, Hubert Charuel nous a accordé un long entretien. Hubert Charuel, commençons en parcourant votre biographie. Vous êtes natif de Droit, un village de Haute-Marne de 400 habitants, non loin de Saint-Dizier. Alors j'ai essayé de me renseigner sur le village de Droit, je suis allé sur la fiche Wikipédia pour voir quelles étaient les personnalités liées à ce village. Et il y en a une, c'est vous. C'est votre nom qui est cité sur la page Wikipédia du village de Droit.
C'est vrai, c'est vrai. Il y a moi et il y a maintenant ma mère qui est devenue maire du village. Voilà, ma maman est devenue maire. Elle est devenue maire déléguée dans la communauté de communes, mais en charge de la partie de Droit. Mais voilà, mais en effet, oui, tout à fait, petit village de 400 habitants. Voilà, village cher à mon cœur.
Alors Droit, c'est entre 20 et 30 km de Saint-Dizier, donc on n'est pas loin de salles de cinéma tout de même. Ce sont d'ailleurs les salles de Thierry Tabarot, mais pour autant, on est loin du monde du cinéma.
Ouais, exactement, loin du monde du cinéma. Et puis quand même, en fait, vous dites pas si loin, mais quand même, quand les parents, ils sont exploitants laitiers, 25 km, c'est quand même, faut le faire, voilà, c'était un investissement de m'y emmener toutes les semaines. Et en effet, voilà, c'était un peu notre bouffée d'oxygène, voilà, quand on est éleveur laitier, on part pas en week-end, on part très peu en vacances. Donc voilà, l'idée c'était d'aller au cinéma pour s'oxygéner la tête et s'offrir un espace de liberté. On partait loin quand on allait au cinéma.
Pouvez-vous nous partager les films de votre enfance, ceux qui ont marqué votre enfance? Est-ce qu'il y a eu un coup de foudre particulier de votre part pour le cinéma lorsque vous alliez au cinéma avec vos parents?
Tout à fait. Alors à l'époque, c'était pas les salles de Thierry Tabarot. C'était, alors je pourrais pas vous dire le nom du propriétaire, mais c'était le cinéma Le Cyrano. Voilà. Et voilà, après moi j'ai connu le Ciné-Quai aussi, donc la salle de Thierry Tabarot, mais qui j'étais déjà au moins de. Je crois que j'étais déjà plus à Saint-Dizier en fait quand. Bon, j'y revenais très souvent parce que j'ai fait mes études à Nancy. Merde, faut pas dire ça ici, faut surtout pas dire ça. Je suis très attaché à Metz aussi. Et les films de mon enfance, bah je crois d'abord il y a le tout premier. Le tout premier c'était Cro-Blanc, voilà. Et évidemment que c'est fondateur de tout quoi. Après les films de l'enfance, je pense qu'il y a évidemment le cinéma, mais il y a aussi la télé. Moi je suis quand même un enfant de la télé et de la VHS, très clairement. Je pense que j'ai enregistré je ne sais pas combien de films sur des cassettes vierges. Et là-dedans, et je pense que c'est des choses qu'on peut retrouver dans Météor, c'est les films de Jean-Marie Poiret, c'est les films de Francis Weber, La Chèvre, Les Visiteurs. Et donc ça, en effet, c'est quelque chose qui teinte un peu, nous, les films qu'on fait avec ma collaboratrice Claude Lepape. On est né la même année, donc forcément, on a pas mal de films en référence. Et les films de d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri. Et puis après, on a grandi avec le cinéma américain des années 80-90. Et donc, les films de James Cameron, et c'est aussi quand le météore lorgne un peu, on va dire, dans la science-fiction. On s'est teinté de James Cameron et pas mal d'autres films américains.
Quand on est natif de Droit à ce village de Haute-Marne et qu'on fait ses études à Saint-Dizier, comment on passe de spectateur de cinéma à l'envie de réaliser?
J'ai eu la chance de faire une école publique de cinéma et moi-même, ça, j'avais du mal à y croire. En gros, ce qui s'est passé, si on veut parler un peu de mon cursus, voilà, moi, j'ai fait des études littéraires à Saint-Dizier. J'étais quand même pas très bon élève, mais j'ai réussi à accrocher mon bac. Et À la base, moi, je voulais être vétérinaire. Moi, j'avais vraiment de trop mauvaises notes dans les matières scientifiques. Donc, du coup, mes parents m'ont dit, bah là, ça va pas le faire, la véto. Donc, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? La seule chose que j'avais à leur dire, c'était du cinéma. Donc, avec ma mère, je suis allé voir la conseillère d'orientation du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier et je lui ai dit, comment on fait pour faire du cinéma? Elle m'a dit, bon, c'est pas des demandes qu'on a tous les jours, mais il faut faire l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel dans l'autre ville que je ne nommerai pas. Et ensuite, il faut faire la FEMIS. Donc on s'est dit, ok, alors on part là-dessus. Moi, à cette époque-là, je ne savais pas du tout que la FEMIS, c'était une école extrêmement sélective. Je pensais qu'on s'y inscrivait comme on va à un cours d'équitation, on va dire. Et donc je vais à l'IECA, et là, l'IECA, ils me disent, mais attention, c'est un gros concours, et ne vous attendez pas à faire la FEMIS. Donc là, pendant 3 ans, je fais mes études en me demandant, ce que je vais faire, je sais pas trop. Et je découvre la production. Et donc du coup, en fait, moi, j'y crois pas trop, mais à un moment, mes parents me disent, la conseillère d'orientation avait dit qu'il fallait que tu fasses la FEMIS, donc tu vas t'inscrire au concours. Donc j'ai essayé d'expliquer à mes parents que je n'irai pas à la FEMIS, parce que je ne serais pas pris. Et en fait, j'ai passé le concours et j'ai été pris. Et ça, là, c'est déterminant, puisqu'une fois que je suis à l'école, je rencontre tous mes futurs collaborateurs.
On avance le curseur. Aujourd'hui, Petit Paysan, ça fait 8 ans. Ça a mis du temps pour rebondir. C'est étonnant que vous ayez passé autant de temps. Il y a juste eu un documentaire, Les Vaches n'auront plus de nom.
Alors, c'est pas si long puisque Météor dure 10h45. Non, je plaisante. En fait, oui, c'est long. 8 ans, c'est long. Et en même temps, ça a été un temps nécessaire. Moi, Petit Paysan, c'est un film... Quand il y a eu le succès de Petit Paysan, il y a un moment, je me suis dit, c'est mon premier long-métrage. Ça se trouve, c'est la seule fois de ma vie que je vais avoir un succès. Et donc, je me suis dit, il faut que je l'accompagne au maximum. Donc déjà, moi, j'ai accompagné, puisqu'il y a eu les Césars, et vous savez, c'est un peu comme il y a une campagne un peu aussi pour les Césars et tout ça, donc je l'ai beaucoup accompagné. Et j'ai continué de l'accompagner après les Césars. Le film est rentré tout de suite dans ce dispositif lycéen au cinéma. Et donc, moi, je suis venu, mais je suis peut-être même venu à Metz, rencontrer les professeurs et leur parler du film pour, en gros... faire des rencontres avec des élèves. Donc il y a eu ça m'a pris 2 ans. Et ensuite j'ai fait le documentaire qui prend quand même un petit temps de faire un petit documentaire. Et après il y a eu le Covid. Et ça pendant 2 ans, nous avec ma co-scénariste on s'est un peu posé des questions de se dire c'est quoi le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va raconter. D'un coup toutes nos petites histoires, le monde avait changé en fait. Donc d'un coup on se dit mais qu'est-ce qu'on raconte maintenant quoi. Donc il y avait eu le temps de digérer ça. Et puis évidemment qu'il y a la pression du deuxième long métrage. J'ai été choqué, moi, après Petit Paysan, une fois que le film était terminé, après la première projection à Cannes, première interview, et les gens m'ont dit « Alors le deuxième projet ?» Moi, j'étais juste à me dire « Attendez, les gars, là, on va déjà sortir celui-ci, et puis on verra ensuite. » Et c'est vrai que Petit Paysan, ça a été un film, il fallait du temps pour que l'histoire soit bonne. Et donc, quand on réalise un premier film qui fonctionne, tout de suite, on lui dit « Ah, mais il faut y aller, là, tout de suite, là, tant que c'est chaud. » Et moi, tout de suite, j'ai décidé de fuir ça. J'avais vraiment peur de rater mon deuxième film parce que, justement, j'y suis allé trop vite, quoi. Et puis, je pense que Petit Paysan partait d'une nécessité à raconter une histoire. Et il y a eu un moment, moi, je savais que je voulais parler de la ville de Saint-Dizier, de parler de la Haute-Marne, là où j'ai grandi. Et j'avais pas encore le sujet nécessaire. Je sentais pas que le sujet que je voulais raconter était viscéral. Et puis, un jour, à un moment, il y a quelque chose qui s'est imposé. Et c'est parti, d'un sentiment viscéral de devoir raconter une histoire, la même que celle quand on a créé Petit Paysan. Et donc je me suis dit, ok, on y va. Et à partir de ce moment-là, on a été très vite.
Vous l'avez cité, votre co-scénariste, c'est une longue collaboration. Et d'ailleurs, sur l'affiche, c'est en collaboration avec, mais c'est ni co-réalisatrice. Elle est juste co-scénariste, mais c'est quoi votre relation du coup? Parce qu'on aurait imaginé qu'elle pouvait aller au-delà.
Elle est à l'au-delà puisqu'elle est déjà collaboratrice à la réalisation. En effet, c'est pas une co-réalisation, mais on peut parler de co-création. Évidemment, on est dans le monde du cinéma. Il y a des rôles, il y a des titres, un titre, c'est contractuel. Et donc, moi, j'ai un contrat de réalisateur. Claude n'a pas un contrat de réalisatrice, on va dire. Mais ce qui se passe, c'est que j'arrive avec les idées. Je prends toutes les décisions. Le rôle de réalisateur, c'est celui-ci aussi. C'est de trancher, c'est de choisir, c'est de prendre les risques de se planter et de se mettre en avant de ça. Et ça, c'est vrai que du coup, pour ça, je suis le réalisateur. Mais avec Claude, on vous avez vu, on fait des films avec des personnages. C'est des films de personnages. Ces personnages, ils existent tout de suite dès l'écriture. Et ça, c'est des choses... Moi, j'arrive avec des idées de personnages, j'arrive avec une histoire et quelle va être l'idée du film. Mais on crée à deux. Donc, c'était aussi un peu la mettre à la collaboration, à la réalisation. C'était aussi la remettre à une juste place, parce que par exemple Claude est scénariste, mais elle est là tous les jours sur le plateau. On parle, on discute. Aujourd'hui, les films, ils doivent se faire extrêmement vite, donc on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. D'être avec Claude, ça permet justement en effet d'avancer. Et en effet, comme je le disais, on écrit des films de personnages avec des acteurs. Et donc, ça nous permet d'avoir un dialogue constant et d'aller plus vite pour réaliser. Et puis, elle est aussi là comme regard quand moi, je pars dans l'étape d'après, c'est-à-dire le montage. Et où là, nous, quand on travaille avec la monteuse, on se retrouve vraiment enfermé un peu dans une cave. Et heureusement que Claude est là aussi pour nous faire prendre de la distance avec ce qu'on fait. Donc voilà pourquoi ce n'est pas une co-réalisation, mais que c'est quand même une collaboration. Une collaboréalisation, c'est pas mal ça comme terme. Je vais peut-être faire ça.
Il y a un fil conducteur dans votre parcours cinématographique, ça part du court-métrage, La Diagonale du Vide. C'est vraiment un fil conducteur sur les trois réalisations. Et on a même l'impression que le vide est un personnage de Météore.
Ouais, tout à fait. Bah, la ville de Saint-Dizier, c'est un personnage de Météore. Et vous avez raison, vous avez complètement raison. En fait, c'est vrai je vais vous piquer cette formule, ça me paraît pas mal en fait. Le vide est un personnage. Et ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé. On a travaillé ça dans l'esthétique, évidemment, du film. Et il y avait l'idée de le faire exister. Alors parfois, on me dit, oui, mais c'est peut-être un peu exagéré. Là, c'est peut-être quand même, il y a quand même peu de gens. Je fais, mais évidemment que la diagonale du vide, c'est quoi ? Et je crois que pour moi, la diagonale du vide, c'est aussi parfois un sentiment d'isolement et le fait de sentir du vide autour. Alors parfois, du vide, ça fait du bien. Le vide, c'est pas forcément si vide que ça, en fait. Mais il y avait, en tout cas, de là où on parle avec nos personnages, de le raconter et en effet de le faire exister. Voilà. Et en effet, vous avez raison, c'est un personnage.
À de rares exceptions près, les plans sur la ville, c'est vide, il n'y a pas de vie. Voilà, il n'y a pas de voiture qui passe.
Les personnages
y a pas
que l'on filme, eux, ils sont extrêmement vivants. Donc il y a quand même des gens à Saint-Dizier, c'est sur eux qu'est axée l'histoire. Et justement, ces personnages-là, ils sont en lutte, ils sont très vivants, justement. Et d'ailleurs, c'est même tout le thème du film, c'est comment on essaye de s'en sortir. Nous, on peut parler de la diagonale du vide, mais moi, ça m'intéressait absolument. Moi, j'ai grandi là-bas, je veux dire, il y a aussi... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contraste. Moi, ça m'intéresse de montrer une énorme chaleur humaine quand on est au cœur de l'hiver à Saint-Dizier. C'est plus intéressant, je trouve, en tout cas. Et en effet, et l'idée de se dire, l'amitié que ces trois personnages, Tony, Mika, Daniel, ils ont les uns pour les autres, c'est que ça, c'est plus fort que tout le reste, en fait. Les problèmes, ils existent. Et évidemment qu'il y a... on parle de la diagonale du vide, aujourd'hui, là, je voyais, on parlait de la France des ronds-points, voilà, en effet, il y a eu cette époque-là un peu, et ce sentiment d'isolement, on peut pas le nier, il fait partie de ce département, moi, quand j'y ai vécu, je le sentais, on le sent, mais il y a quand même une union, il y a quand même un sentiment de solidarité, et il y a une vraie union, et de comment on se construit avec ses amis aussi, puisque c'est vraiment ça le thème du film, c'est comment on se construit. Moi, par exemple, tout à l'heure, on parlait du cinéma. Moi, mes parents, ils m'ont poussé à faire du cinéma, mais les personnes qui m'ont donné confiance, moi, mes amis, avec qui vraiment j'ai grandi, parce que moi, on part aussi d'une terre agricole, on part aussi d'une terre ouvrière, et les gens, ils vont beaucoup au travail. On se retrouve beaucoup entre copains, on a un peu que ça. Bah, eux, en fait, ils avaient beaucoup plus confiance en moi sur le fait que j'allais réussir à faire du cinéma que moi, en mes capacités, quoi. Donc, le film, il parle de ça aussi, comment on se donne espoir les uns les autres, et comment, malgré le climat qui peut être le sentiment d'isolement et la rudesse parfois et la précarité, l'amitié et l'amour, en fait, c'est quand même quelque chose qui nous permet de tenir.
Parler davantage des plans d'ensemble de la ville où là on voit personne, et justement vous avez cité le mot, avec ce contraste, avec cette amitié et puis cette notion de jeunesse en perdition quelque part.
Oui, alors en perdition, bon, je trouve que c'est un mot un peu rude, mais en effet, il y a une forme de précarité, et en tout cas, il y a une inquiétude pour la jeunesse. Moi, je fais beaucoup d'avant-premières là en ce moment. C'est vrai que les personnes me parlent de ça, me parlent beaucoup de, ça parle des jeunes aujourd'hui, et je pense que les jeunes aujourd'hui en 2025, quand j'étais jeune en 2005-2007, en vivant là-bas, on avait déjà un peu le début de cette inquiétude. On est dans une ville, voilà, qui c'est l'après les 30 glorieuses, qui a subi la désindustrialisation. Il y a une crise démographique assez sans précédent à Saint-Dizier. Donc c'est quand même, on parle de vide. Il faut le faire exister, ce vide, comme on l'a dit tout à l'heure, y compris dans les plans de la ville. Mais on parle d'un territoire qui se vide. La Haute-Marne perd énormément de ses habitants. Moi, je me souviens qu'il y a 15 ans ou 20 ans, il y a un dossier qui est sorti dans le journal de la Haute-Marne pour dire que la Haute-Marne va perdre 30% de ses habitants en 30 ans. Et je sais qu'il y a 2 ou 3 ans, il y a un autre dossier qui est sorti pour dire que ça va battre plus vite que ce qu'on croit. Donc, évidemment que c'était important d'en parler. Et puis, il y a le vide et il y a ce qu'on y met à la place aussi. Comment on le remplit, ce vide.
Météo est un film sur l'amitié, c'est un film aussi sur la dépendance, mais il y est également question du stockage de déchets nucléaires. Et ce que vous dites, Hubert Charuel, c'est que la Haute-Marne est aujourd'hui dépendante des déchets du nucléaire pour survivre.
Bah oui. Donc en effet, comment on remplit le vide? Et comment, bah, d'une certaine manière, oui, on devient la terre d'accueil des centres de stockage de déchets radioactifs. Et donc, en effet, d'un côté du département, il y a le centre de stockage de l'Aube, et de l'autre côté, il y a le futur projet CIGIO de Bure, qui inquiète quand même, pas que la Haute-Marne, hein, mais plutôt un peu toute la France, enfin une partie, quoi, en tout cas. Et si on part du point de départ de Météor, c'est aussi celui-ci. Moi, je parle d'une histoire d'amour pour mon territoire et des gens avec qui j'ai grandi. Et c'est aussi l'idée, quand je parlais tout à l'heure de nécessité de parler d'un sujet précis, c'est celui-ci, c'est la colère, en fait. Ce qui a fait démarrer Météor, c'est la colère. Moi, en fait, j'ai grandi à côté des poubelles nucléaires. Ça n'a jamais été un sujet. Ça a commencé à devenir un sujet quand, en fait, je suis parti, moi, de la Haute-Marne faire mes études à Paris. Et que d'un coup, je commence à me dire, mais c'est vrai que quand même... Il y a beaucoup de poubelles nucléaires qui sont en train de s'installer, sur le territoire. Et on voit ce que ça rapporte, en effet. Je le dis depuis tout à l'heure, c'est un territoire qui est en crise. L'argent des poubelles nucléaires, en effet, ça permet de survivre. Aujourd'hui, la ville de Saint-Dizier, elle ne ressemble pas exactement à la ville que j'ai connue. Elle s'est embellie, très clairement. Mais à quel prix? En accueillant des déchets radioactifs. Voilà.
C'est presque une triple dépendance qu'on voit dans le film. Il y a cette dépendance de la ville et du territoire vis-à-vis des déchets nucléaires, mais également une dépendance donc à l'alcool et une dépendance amicale dans l'amitié.
Oui, bien sûr, tout à fait, c'est ça. L'idée, c'était de mettre les deux, ces deux aspects-là en rapport, tout à fait. C'était la dépendance que l'on a. Et puis, il y a aussi la dépendance de Tony envers son travail aussi, c'est ça aussi. Il y avait l'amitié, il y avait à quel point voilà, on est dépendant et comme je disais, c'est une dépendance, affective est certainement moins toxique que la dépendance aux déchets radioactifs. Mais évidemment qu'on fait un parallèle entre les deux. Ouais, c'était hyper important de faire ça. Et nous, c'était vraiment le sujet du film. C'était raconter. Parfois, il y a cette phrase qui ressort un peu. C'était parler d'un territoire et de personnes qui s'intoxiquent pour survivre. Et en même temps, et je tiens à le souligner, je le dis toujours, le film, on parle de ces thématiques-là, mais c'était toujours de le faire sur un angle qui ne soit pas, mais qui soit éloigné de tous les clichés qu'on peut en avoir dessus. Et en effet, de partir aussi, le film, il a des traits de comédie. On parle de ces sujets, mais en fait, il faut se dire quand même que le film, c'est une histoire d'amour. Alors, c'est pas une romance, puisque c'est une histoire d'amitié, mais c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, une histoire d'amour et comment cette dépendance, on va dire affective, en fait. C'est plutôt une histoire d'amour et de comment on s'aime les uns des autres. Mais en gros, il y avait une histoire de se dire, voilà, comment on peut essayer de se sauver les uns les autres. Voilà, c'est surtout ça.
Pour que cette histoire d'amitié et d'amour fonctionne à l'écran, il fallait que ça fonctionne entre les comédiens. Ce trio est formidable. Paul Kircher, qui était déjà venu tourner dans le Grand Est et notamment en Moselle pour l'adaptation de Leurs enfants après eux, l'adaptation du roman de Nicolas Mathieu. Salif Cissé, qu'on a vu dans Le Répondeur avec Denis Podalydès. En revanche, on connaît moins Eddie Razougli. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu dans Scheherazade.
Oui, c'est un second rôle dans Scheherazade. Nous, c'est notre grande fierté, ce casting. Nous, on le savait qu'en créant des films de personnages, évidemment que tout dépend de ceux qui les interprètent. Tony Dan et Mika, ça a été un très long processus de casting. On a passé 9-10 mois, on a vu, je pense, une centaine de comédiens de cet âge-là. Et le premier qui a été trouvé, c'est Salif Cissé, qui lui est venu passer les étapes de casting. Et très vite, ça s'est imposé comme étant un Tony. Et ensuite, c'est Idir, dans le rôle de Daniel. Et Daniel, on en a vu des gens aussi. On n'arrivait pas vraiment à le trouver. Et à un moment, on a vu le film qui s'appelle Le Théorème de Marguerite d'Anna Lovion. Et dedans, Idir avait un tout petit rôle. Moi, je ne l'avais pas vu dans Scheherazade, en fait, à l'époque. Et il avait ce magnétisme, cette espèce de douceur et aussi une drôlerie, quoi. Donc, nous, il nous a tout de suite plu et on l'a rencontré. Et d'un coup, on s'est dit, c'est évident, c'est Idir. Et Paul passait sous le radar parce que on cherchait des comédiens de 25-35 ans. Même 30-35 ans, je pense, au début. Et moi, je l'avais vu dans Le Règne Animal et je m'étais dit, mais il nous faudrait quelqu'un comme Paul Kircher en plus vieux. Mais Paul Kircher en plus vieux, ça n'existe pas.
En plus jeune, il y a son frère.
Et en plus jeune, il y a son frère, c'est vrai. Mais là, du coup, en effet, à un moment, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit plus jeune? rencontrons-le. Surtout, il était disponible, il a lu le scénario, il a tout de suite voulu passer des essais. Les essais étaient super, la rencontre était super. Et après, il y a cette grande question, comment on travaille cette alchimie? Et là, ça a un peu dépassé nos attentes. C'est qu'on avait prévu, on avait dit à la production, attention, il va nous falloir beaucoup de temps de répétition, cette alchimie, il va falloir la travailler. On a fait plusieurs jours de répétition, et puis eux, ils ont continué le travail de leur côté, et bah voilà, on parlait d'une histoire d'amour. Vraiment, il y a un truc qui s'est passé entre eux, qui nous a dépassés. Et là où en fait on avait une peur, en se disant, voilà, on a quand même un tournage qui va être compliqué, on avait beaucoup de tournages de nuit, on avait beaucoup de séquences à faire par jour. Ils nous ont donné, moi tous les matins, j'avais une liste longue comme le bras de problèmes à résoudre, mais dès que les trois, je les voyais arriver le matin, ça s'envolait, mais par magie quoi. Je veux dire, ils sont amis et ils le sont toujours, ils se voient toujours. Et Paul, Salif et Idir, je veux dire, c'est très marrant. C'est-à-dire que même nous, quand on est avec eux, il y a un moment, ils se mettent tous les trois, ils sont dans leur bulle. Voilà, et ça c'était, moi je me suis senti extrêmement privilégié d'assister à la naissance de cet amour-là entre les trois. Et d'un coup, on est passé de comment nous on va construire cette amitié à non, c'est là, maintenant, c'est à nous de la capter par contre.
Alors Mika, le personnage que joue Paul Kircher, on le voit à un moment donné à côté de la tour Miko à Saint-Dizier. Mika, Miko, c'est un clin d'œil ou...
Pas du tout, pas du tout. Et même pour être tout à fait honnête avec vous, on s'en est rendu compte bien tard qu'en fait Mika, ça ressemblait à Miko. Voilà, je ne ferai pas plus de déclarations là-dessus.
On parlait de casting, donc il y a véritablement cette alchimie qui transparaît vraiment à l'image, mais il y a également la force et la justesse des seconds rôles féminins, à savoir la juge, l'avocate, et alors est-ce que c'est une addictologue ou une assistante sociale? On ne sait pas trop.
Bien sûr, et la commissaire aussi, enfin voilà. Mais nous, c'est notre manière de travailler avec Claude, c'est de prendre des gens, voilà, moi, il y a aussi mes parents qui sont dans le film, enfin, il y a toujours quelqu'un de ma famille qui est dans le film. Et ça, c'est aussi une méthode de travail, c'est-à-dire souvent, parfois, quand on prend des comédiens professionnels, on va dire que quand on les laisse ensemble, parfois, il y a une petite routine qui s'installe, la routine du comédien, et c'est bien normal. En fait, quand on les met avec des non-professionnels, on casse cette routine. C'est imprévisible, un comédien non-professionnel. Donc, tout de suite, il y a un accident qui peut se créer. Et nous, c'est ça qu'on recherche. On cherche la faille, finalement. On cherche l'instabilité, l'insécurité, finalement. Et c'est là qu'il y a une fragilité. Il y a quelque chose qui naît, en fait. C'est l'accident qu'on recherche. C'est souvent ça qu'on dit. Donc, travailler avec les non-professionnels, ça permet ça. Et là, vous dites la juge, vous dites l'avocate. La juge, par exemple, en fait, c'est quelqu'un de l'équipe technique. Et ça, c'est quelque chose qui était important pour nous. Donc, on a testé avec Claude. C'était... Bon. Nous, on est très à... Moi, quand je vois des gens dans l'équipe, je me dis, bon, bah tiens, lui, je l'aime bien, il faut qu'on lui fasse, on lui fasse jouer quelque chose. Et bah Claire, donc Claire Langman, en fait, c'est la directrice de production du film. C'est elle qui joue le rôle de la juge. Célie Valdener, c'est la première assistante du film. Elle joue la policière qui interroge Paul. D'un coup, ça a créé... Ça a amplifié l'effet de groupe. C'est-à-dire que Célie et Claire, c'est des personnages qui sont censés représenter des figures d'autorité. Et d'un coup, de les mettre avec les comédiens, ça cassait ça, en fait, quoi. Et d'un coup, il y avait un esprit de groupe. Et puis forcément, tous les assistants, tous les gens sur le tournage, ça devenait hyper ludique. Et donc, d'un coup, ça, c'est un cercle vertueux, on va dire. C'est-à-dire que les comédiens s'amusent, les gens de l'équipe s'amusent, et même des techniciens qui, finalement, à la fin, finissaient par un peu me faire de l'œil en me disant moi, est-ce que je peux jouer dans le film aussi? Et du coup, ça a créé un sentiment amical qui transparaît, quoi, en tout cas. Et puis, bah, en effet, la toxicologue Elsa Bouchain, qui est une grande actrice de théâtre, qui a joué pendant des années avec Joël Pommerat, voilà, c'est des gens qui. Ces rôles, et c'est super de le souligner, je suis très content, parce qu'en fait, c'est pas tant que ça, mais c'est vrai que moi, j'en ai vu, je pense, 25 des personnes qui sont venues passer le casting de la toxicologue. Elsa, la proposition, c'est d'un coup, bah voilà, c'est ça en fait, une actrice. C'est d'un coup, ça pourrait être un rôle accessoire, tout le monde pourrait le faire d'une manière, et ça servirait juste l'histoire, mais non, il y a quelqu'un qui arrive avec son empreinte, avec son charisme, et qui surtout, qui en travaille, qui en fait quelque chose, qui a une personnalité unique, et ça a été le cas de tous les seconds rôles, que ce soit François Perrache, Elsa Bouchain, voilà, Alexandra Thomas, Patrick Devalette, et voilà, tous se sont appropriés leur rôle, alors qu'ils n'avaient que quelques répliques, pas grand chose, mais à chacun s'est investi dedans, et ça forcément, ça se sent dans le film.
Le dernier, un rôle un peu particulier quand même, hein.
Patrick, bien sûr, Santiago, c'est notre chouchou, hein. On l'aime, Santiago, on l'aime.
Est-ce qu'on peut évoquer un autre second rôle, une sorte de guest star du film Météor? C'est Moby Dick, la carpe Moby Dick. En fait, si l'on cherche un peu, on apprend que c'est une vraie célébrité du lac du Der. Cette carpe, qui doit avoir un certain âge, mais elle vit jusqu'à 50 ans, elle existe vraiment.
Une vraie célébrité du lac du Der, et l'histoire que l'on raconte dans le film, on n'est pas très original, hein. Elle est vraie. C'est-à-dire que Moby Dick, je ne sais plus si c'est dans les années 90 ou les années 2000, mais elle a été volée. Nous, c'est cette histoire-là qu'on raconte, en fait, à quel point voilà, elle a été volée. Surprise, où est Moby Dick ? Et donc voilà, en effet, c'est une histoire vraie. Moby Dick est toujours vivante à l'heure actuelle. Elle est toujours dans le lac du Der. Et je pense qu'elle est bien nagée.
Je ne sais pas si c'est la vraie dans le film.
Et non, ce n'est pas du tout la vraie. Alors moi, justement, je suis arrivé avec vraiment le réalisateur ignorant. Et à dire genre, oui, bon, bah voilà, il faut attraper Moby Dick ou une carpe qui ressemble. De toute façon, il y en a plein des grosses carpes dans le lac, on va y arriver. Et en fait, là, je me suis heurté à la nature. Et les pêcheurs m'ont dit, bah non, en fait. Parce que déjà, c'est très rare. C'est très rare d'attraper une carpe aussi grosse. Et même si on l'attrape, il faut se dire qu'en fait, plus elle est grosse, plus ça veut dire qu'elle est âgée, en fait. Et ils ont dit, bah, imaginez que c'est une personne grabataire, Moby Dick. Donc, si jamais on l'attrape, on va la laisser hors de l'eau pendant 3 minutes et ce sera peut-être à 3 heures du matin. Donc, soit à vous et votre équipe, vous êtes capable de venir et de faire un shooting juste avec elle pendant, on vous laissera 5 minutes et c'est tout. Soit il faut trouver une autre solution. Donc, on est parti chercher d'autres cartes. Et voilà, et après, on s'est heurté à exactement, finalement, on est retombé sur les problématiques de petits paysans dès qu'on tourne avec des animaux. C'est-à-dire qu'il y a quand même des lois, c'est très bien régi. Eh ben, il faut des autorisations pour relâcher une carpe sauvage dans le lac du Der. Donc voilà, c'était une très gentille carpe qui, elle, s'appelle aujourd'hui Météor et qui a été relâchée donc, dans le lac du Der. Et donc maintenant, chaque pêcheur qui va au lac du Der et qui pêchera la carpe Météor, qui à l'époque où nous on l'a relâchée faisait 19 kilos, bah voilà, c'est celle qu'on avait dans le film.
Météor. C'est un film qui est difficile à cataloguer, même si on va le citer comme un drame social, mais il y a de l'humour, donc il y a de la comédie, il y a du drame, et en même temps il y a un côté documentaire aussi, documentaire social, sur la ville de Saint-Dizier, sur la notion de traitement des déchets toxiques, il y a tout ça qui se mélange.
Bah ça c'était déjà le cas sur Petit Paysan, je crois que c'est un peu notre marque de fabrique avec Claude, hein. C'est arrivé à mélanger quelque chose d'hyper réaliste on va dire. Et surtout de l'emmener sur le terrain de la fiction. Moi, je pense que, par exemple, Petit Paysan, et je pense que Météor, c'est la même chose. Petit Paysan, c'était les paysans. Et puis Météor, en effet, comme on l'a dit, tout à l'heure, c'est la France périphérique, c'est la France des ronds-points, c'est la diagonale du vide. Et c'était de se dire, souvent, on les représente d'une certaine manière, ces personnes. Et Petit Paysan, il y avait vraiment l'idée de se dire, bah, nous, on va partir quand même d'une forme de réel, mais on va l'emmener très loin dans la fiction. Et on se disait toujours ça, on disait mais le monde paysan il mérite la fiction, c'est pas juste un décor et c'est pas juste en effet des films qui sont des documentaires ou des choses hyper ultra naturalistes. Et bah pour Météor c'était penser de la même manière ce milieu.
Et par contre la nuit est aussi un des personnages dans le film, elle est omniprésente la nuit.
Ouais tout à fait, ça c'était hyper important, mais je pense que on parlait de jeunesse tout à l'heure. Moi, si je pense à ma jeunesse, j'ai l'impression de... on vivait une partie de la nuit. La journée, moi, j'étais à l'école. Et la nuit, c'est quand même le moment où on est libre quand on est jeune, d'une certaine manière. Donc ça, c'était important. Et je pense que c'était aussi... Tout à l'heure, vous parliez de ville, mais il y a... Voilà, il y a à la fois la nuit, c'est calme. Et puis la nuit, c'est opaque. Et aussi, parfois, quand on parle un peu de jeunesse et qu'il y a un peu du mal à se projeter, ben, ça, c'était une manière un peu de traduire tout ça. Mais le film s'appelle Météor aussi. Et c'est vrai qu'en effet, ce côté nuit, ce côté spatial... Tout à l'heure, on parlait de James Cameron, on parlait de... Voilà, on parlait d'espace, mais c'est... Il y avait... Et quand on parlait de terrain de fiction, il y avait évidemment aussi tous ces imaginaires. Le film, il orne un petit peu aussi sur le film noir à certains moments. C'était une manière de montrer cette ville-là. Et puis, une ville la nuit, c'est quand même... vraiment très très joli.
Il y a même des plans qui renvoient à la SF à la fin.
Tout à fait. Nous, l'idée, c'était de se dire avec Claude, on a une histoire, on a des personnages, et là où Petit Paysan était le monde rural et à quel point on pouvait lorgner vers certains genres, on voulait faire la même chose avec Météor. Et donc, là, on s'est dit, bah ok, par rapport à ce que vont traverser nos héros et les péripéties auxquelles ils vont se confronter, vers quel genre on peut un peu lorgner, on peut osciller. Donc, on parle de la comédie de personnages et de situations avec, tout à l'heure, on parlait du film de Francis Weber, voilà, sur le début du film. Le film, je n'arrête pas de dire que c'est une histoire d'amour, donc évidemment, avec tous les codes qu'on peut avoir sur les histoires d'amour, là, une histoire d'amitié racontée comme une histoire d'amour, on lorgne vers le thriller, et puis, plus on avance dans les déchets nucléaires, plus on se rapproche de la science-fiction.
Je reviens sur Petit Paysan, et notamment la cérémonie des Césars. Je ne sais pas si c'est ce dont vous pouviez rêver ce soir-là en arrivant à la cérémonie, mais vous en êtes reparti avec 3 Césars. Le César de la première œuvre pour vous, mais également le César pour Sarah Giraudot et le César pour Swann Harlow. Et on se souvient des mots que vous avez eus sur scène, un film de plouc sur des ploucs fait par un gros plouc.
Ben, je pense qu'elle est très vraie cette phrase, dans le sens où Moi, je suis un plouc et fier de l'être, on va dire. Et je le revendique. Et j'ai le droit. Et je pense qu'il y aura, il y a toujours, ça traduit aussi finalement un peu, je pense, des problématiques un peu de gens qui viennent de ma classe sociale. C'est-à-dire, on est souvent dans le complexe, en fait. Et à se considérer comme des ploucs, alors qu'en fait, on ne l'est pas. Et c'est trop marrant. Et moi, je me rends compte que ça y est, maintenant, j'ai 40 ans. Et ça, je l'ai dépassé aussi. Maintenant, j'ai appris à en être fier. Mais je sais que... Moi, par exemple, tout à l'heure, il y a eu un moment, il y a Idir, il était en train de galérer sur un truc et il me disait, il m'a dit un truc et tout de suite, il m'a dit, mais j'y arrive pas. Il dit, mais tu vois, moi, je suis trop bête. Mais tu sais, moi, je suis un pauvre Marseillais et tout. Et je fais, t'arrêtes du tout ça. Je fais, moi, j'arrêtais pas de me dire que j'étais un pauvre plouc et que j'y arriverais jamais. Et je lui dis tout de suite, je fais, tu sais, on est plus intelligent que ce qu'on croit. On va y arriver. Donc voilà. Il était gentil, il a dit « Bon, écoute, merci pour ce que tu dis, mec, ça me fait plaisir et tout. » Et puis voilà.
Il faut savoir qu'on peut aller loger au gîte du Petit Paysan, chez Sylvaine et Jean-Paul, vos parents.
Et bien sûr, merci pour la publicité. Alors, dépêchez-vous parce que le gîte du Petit Paysan, il est très, très souvent occupé parce que les hôtes sont d'un accueil incroyable. Il est extrêmement bien noté sur Gîte de France et je vous conseille vivement d'y aller faire un tour si vous aimez les chevaux. Et il n'y a plus de vaches. Il reste une vache quand même. Mais voilà. Allez à la rencontre de Jean-Paul et Sylvaine.
Outre les trois Césars en 2018, Petit Paysan, sorti en 2017, a été un joli succès, avec plus de 500 000 entrées. Il a même eu une carrière internationale. La sortie de ce deuxième film le 6 octobre, vous y allez comment? Vous êtes décontracté? Vous êtes à l'aise?
Ah bah non, je connais personne qui peut aller vers la sortie du film de manière décontractée. Par contre, la seule chose qui est sûre, c'est que pour l'instant... Il y a un accueil qui est vraiment très bon. Donc oui, on était à Cannes. À Cannes, ça s'est extrêmement bien passé. Là, on a continué. On était au Festival d'Angoulême. Ça s'est extrêmement bien passé aussi. Moi, je fais une grosse tournée d'avant-première où on sent un public qui est extrêmement enthousiaste et qui nous pose beaucoup de questions et qui a envie de rester en plus à la fin des débats. Et tout ça, c'est encourageant. Mais... la carrière d'un film, ça peut aller très vite. Et puis parfois, c'est des choses qui nous dépassent aussi. Donc évidemment que... je peux pas me plaindre, ça se passe bien. Maintenant, je touche du bois et puis on va espérer que ça continue comme ça.
On rappelle que le film est soutenu par la région Grand Est.
Bah, bien sûr, où est-ce que je pourrais tourner à part dans le Grand Est?
Et pourquoi Météor?
Alors, Météor, ça, il faut mieux avoir vu le film pour avoir la réponse. Mais, ah ouais, ça m'embête de répondre un peu à cette question avant. Ça s'appelle Météor, mais les météorites sont parfois plus humaines que ce qu'on croit.
Je rappelle donc, ce joli long-métrage Météors sort le 6 octobre. C'était Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Bonne journée et à bientôt.